Bonjour à tous. Waouh, pas très réveillé alors. Hein. Je suis content d'être parmi vous, vraiment content d'être parmi vous ce matin en tant que Toulousain. Même si voilà, ça fait 11 ans que j'habite à Los Angeles. Non, j'ai quitté Lyon il y a 20 ans pour aller 11 ans à Los Angeles et ensuite 10 ans à Lyon. Je suis pas plus réveillé que vous, mais c'est pas grave, on va y arriver ensemble. Et quelle joie ce matin de pouvoir finir l'année en parlant de la fin du monde. Voilà le texte. Aujourd'hui, on est en 2 Pierre chapitre 3. On finit la série qui a été commencée en novembre avec les signes de la fin des temps. Pour moi, la fin de mon monde est arrivée il y a quelques moments. Voilà, je suis venu avec mon épouse Sophia. Elle attend un 6e enfant. La fin du monde, pour moi, s'appelait Clarisse. C'était la numéro 3. Il y avait un avant et il y avait un après. Où la mort à soi-même n'était plus une option, c'était de la survie. Et on a appris qu'il fallait sacrifier un certain monde pour pouvoir vivre et survivre. Mais j'ai entendu une statistique qu'à partir de 4 enfants, les gens sont moins stressés. Donc voilà, on a franchi le cap. C'est pour ça que vous avez des pasteurs très très cool. Il y en a, ils ont même une double dose. Voilà, quand t'as deux fois plus que 4 enfants, bah t'es vraiment vraiment cool. Donc voilà Samuel. On peut arriver à la fin du monde de manière sereine une fois qu'on a plus de 4 enfants. Bon, on va quand même ouvrir la parole. Je vous invite à suivre dans vos Bibles. On est en 2 Pierre chapitre 3. Nous allons lire tout le chapitre. 2 Pierre chapitre 3. Voici donc, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je vais afficher en même temps pour ceux qui n'ont peut-être pas... voilà. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu. En vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Ces quelques années, je ne sais pas vous, mais j'ai eu l'impression de vivre à plusieurs moments des moments apocalyptiques de la fin du monde. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez vécu ça, pendant la crise Covid, où tu te retrouves avec ton papier, ta permission, t'es dans la rue, nous on habitait au cœur de Villeurbanne, où d'habitude il y a des centaines de personnes qui marchent leur chien, qui se promènent, il y a des voitures, des vélos, des motos, il y a tout ce que tu veux pour avoir du bruit, et là tu marches, il n'y a pas un bruit, pas une âme. Et tu te poses la question, ça va ressembler à ça à la fin du monde? Et puis on sort du Covid, et puis il y a la guerre qui rentre en Europe, avec des puissances nucléaires qui commencent à faire le jeu de la guerre. Tu dis, ça va ressembler à ça, la fin du monde? Et puis, la guerre continue, on se sent un petit peu de proche ou de loin de tout ça. Il y a l'intelligence artificielle qui prend un essor incroyable, qui est en train de toucher tous les secteurs de notre société. Et on se dit, mais ça ressemble à ça, la fin du monde? Et année après année, expérience après expérience, on se pose une question qui finalement, chaque génération s'est posée depuis Jésus. Est-ce que c'est déjà la fin du monde? Alors que Pierre est en train d'écrire, peut-être 30 ans après le départ de Jésus, les gens sont en train de se dire, la fin du monde, elle est déjà là. Parce qu'on voit certaines choses, on voit certains signes, on a l'impression que cette fin du monde, on est déjà dedans. Et la Bible nous dit, c'est normal de ressentir cela parce que nous sommes vraiment dans cette ère de l'histoire qui est l'ère de la fin du monde. Lorsque la croix a eu lieu, il y a eu un rejet de Dieu par l'humanité où le jugement de Dieu est tombé sur l'humanité, sur un homme qui l'a porté. Mais nous sommes entrés dans une ère qui est à la fois l'ère du salut et du jugement. Le jugement de Dieu a déjà commencé à la croix et se finira par la destruction du monde. Nous sommes dans cette ère de la fin du monde. Sauf que pour les chrétiens, cette ère commence un peu plus tôt, nous dit Pierre. Parce que oui, il y a des signes extérieurs qui vont avoir lieu, des guerres, des bruits de guerre, toutes sortes de choses qu'on voit dans la Bible. Mais le danger commence où? Les signes de la fin du temps, où sont-ils les plus visibles? Vous avez le droit de me parler, sinon je vais avoir l'air un peu seul. Où c'est que ça commence? Dans l'Église. La fin des temps commence dans l'Église. Alors, comme on l'a vu, la fin des temps a déjà commencé, mais les signes de la fin du temps sont le plus visibles dans l'Église. Ou comme Samuel l'a mentionné le mois dernier, chapitre 2, les faux docteurs qui viennent de l'Église vont avoir une attitude dont il a parlé la dernière fois, qui les rend évidents parce que c'est des attitudes de convoitise, des attitudes charnelles. Et dans ce passage, on voit leur théologie. Mais leur attitude et leur théologie sont absolument liées parce que c'est la même religion, c'est la religion de Satan qui est la religion de l'immédiat. Et la théologie pratique des faux docteurs, c'est mon plaisir, je vais le prendre maintenant. Je vais saisir immédiatement les passions que j'ai envie, ce que j'ai envie, je vais le prendre maintenant. Et en théologie, ça se décline comme comment? La fin du monde, on va la mettre de côté, on va l'ignorer, on va pas y penser et on va vivre aujourd'hui. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Alors dans ce passage, Pierre va nous encourager en tant que chrétien. Comment se préparer dans cette phase dans laquelle nous sommes déjà de la fin du monde? Pour pouvoir vivre avec la bonne attitude, pas dans la crainte, pas dans le découragement, pas dans le désespoir, pas dans la folie, pas dans l'apathie, mais avec intentionnalité, avec sagesse, avec pertinence, avec impact. Alors, Pierre va nous donner 4 signes de la fin des temps et 3 applications concrètes qui reviennent vers le thème que les anciens ont choisi pour cette série, qui est la connaissance de Jésus-Christ. La manière de lutter contre les faux docteurs, c'est d'être centré sur Jésus-Christ, dans notre pied. piété envers Jésus-Christ et dans notre manière de voir le monde centrée sur la personne de Jésus-Christ. Dans ce texte, nous voyons donc quatre signes de la fin des temps envers lesquels nous devons veiller. Et le premier signe, nous dit Pierre, c'est que un des signes de la fin des temps, c'est que l'essence du christianisme est moquée. Le centre du christianisme, notre espérance, la rédemption sont moqués. Je vais relire les versets 3 et 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. L'attaque des faux docteurs qui viennent de l'église, c'est dire « T'as pas besoin que Dieu rachète tes désirs et tes passions. T'as pas besoin de changer tes envies. Suis ton cœur. Suis tes désirs. » Les amis, je pense que cette manière de penser, elle est déjà très très présente dans les églises. Vis ton plaisir immédiat. Vis un christianisme qui est dans l'immédiat. On sait la différence entre Satan et Dieu. Satan est le faux Dieu de l'immédiat, Dieu est le Dieu de l'éternité. Satan, c'est sa seule carotte. C'est dire, si tu me suis, moi je te donne le plaisir tout de suite. C'est sa seule carotte. Si tu lui enlèves ça, Satan, il n'a plus rien. Satan, il ne peut pas te faire attendre. Si tu attends, il a perdu son pouvoir. Alors que Dieu est le Dieu de l'éternité. Oui, il peut faire des choses dans l'immédiat, parce qu'il est au-dessus de tout ça. Mais le centre du christianisme, c'est l'attente. C'est de se laisser travailler. C'est de se laisser changer. C'est de se rapprocher de Dieu et prendre cette posture de combattant qui veut grandir en sainteté pour ressembler à Jésus, qui est prêt à faire un combat sur la durée, dans la persévérance, sans forcément avoir toujours du fruit immédiat, avoir des victoires toutes immédiates, avoir du plaisir toujours immédiat, mais s'en remettre à Dieu. La différence entre l'enseignement des faux docteurs et l'enseignement des fidèles à Jésus-Christ, c'est que ceux qui craignent Jésus-Christ vont avoir la pensée de l'éternité. Et quand tu es attaché à Jésus-Christ, ce qui va compter pour toi, ce n'est pas tes désirs, mais les désirs de Dieu. Il y a un auteur puritain qui disait « Dieu n'est pas venu pour enlever nos désirs, mais pour élever nos désirs. » Racheter nos désirs, nous donner des désirs qui sont meilleurs, qui s'attachent à des choses qui ont plus de valeur. C'est le message de la rédemption. On donne nos désirs, on donne nos passions, on donne nos convoitises, on donne nos cœurs à Dieu, ces désirs de contrôle immédiat, de plaisir immédiat, on le remet à Dieu et on le laisse dans son temps travailler dans nos cœurs, dans son temps porter son fruit et dans son temps récompenser avec cette récompense éternelle que lui seul peut donner pour nos œuvres. Les faux docteurs combattent l'essence du christianisme. Pas besoin de rédemption. Tu gardes ton cœur, tu gardes tes désirs, tu es toi-même. Et puis surtout, plus besoin d'espérer. Il faut que le christianisme soit un plaisir aussi immédiat, la gratification immédiate. Il faut que tu reçoives quelque chose à chaque fois. Encore une fois, les amis, on a besoin de tellement de discernement. Parce que Satan, il a déjà les bras et les pattes dans tellement d'églises, dans tellement de cœurs, par ses fausses promesses de gratification immédiate. Et on vit dans l'urgence, c'est un peu notre société, on est dans une urgence constante de l'immédiat. Et c'est pas que Dieu est contre les avions et les téléphones portables et ce genre de choses, ça fait partie d'éléments dont finalement c'est lui le créateur. Il a donné les outils pour qu'on arrive à faire ces choses-là. Et gloire à lui. La technologie, ça rend gloire à Dieu. Mais Satan en fait des instruments aussi pour sa religion. Les faux docteurs essaient d'éloigner nos cœurs de cette attente et de cette rédemption. Et ça, c'est un signe de la fin des temps. Et le signe, il est bien présent. Le signe et les bras présents. Et mon défi pour chacun de nous pour cette fin d'année, faire un bilan. Est-ce que l'année dernière, j'ai vraiment concentré mes efforts sur ce qui est éternel? Est-ce que j'ai concentré mes efforts, mes priorités, mes désirs pour ce qui compte vraiment pour Dieu, en m'attendant à lui? Et pour cette année qui vient, est-ce que je suis capable peut-être de prendre une résolution, prendre une décision pour mettre Dieu au centre, pour prendre un pas, pour me concentrer davantage sur ce qui est éternel, plutôt que vivre dans le moment, vivre dans la gratification immédiate, vivre dans cette religion finalement qui est celle du diable, et que Dieu nous demande de combattre avec cette perspective de Dieu tellement plus grande, tellement plus belle, tellement plus glorieuse, d'un Dieu qui va rendre choses, qui rend toutes choses belles en son temps. C'est le premier signe. Le deuxième signe qu'on voit dans ce passage, c'est les faits bibliques volontairement oubliés. Pierre souligne que volontairement, des faits du monde dans lequel nous sommes, qui devraient être évidents, sont volontairement ignorés, cachés, mis de côté. Et là, il en souligne trois, des versets 5 à 16, je vais les relire, mais il en souligne trois, la création, le déluge et le jugement final. Il dit ces trois éléments devraient vraiment être évidents du monde dans lequel nous vivons. Mais volontairement, les gens vont vouloir le cacher. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. L'attaque contre ces choses-là est une attaque directe à la parole de Dieu. Pierre souligne à nouveau, le monde a été créé par la parole. C'est la parole qui a déclenché le déluge, et c'est la parole de Dieu qui jugera aussi le monde. Mais il y a une attaque volontaire pour ignorer le rôle de la parole de Dieu. Et c'est vraiment l'ère dans laquelle nous vivons. Toutes les opportunités sont bonnes pour attaquer la Bible. Toutes. Il n'y a aucun livre qui a été plus scruté, plus blasphémé, plus remis en cause, plus démantelé pour en faire valoir, pour en dire ce qu'on veut. J'ai un prof à la fac, il disait, le commentaire de texte, souvent, c'est tu prends ton texte, tu l'attaches à une chaise et tu le fouettes jusqu'à ce qu'il avoue ce que tu as envie qu'il dise. Et beaucoup de personnes font ça avec la Bible et en tordent le sens, comme Pierre en parle un peu plus tard. Et notamment, pour nier la création et le contexte de la création, nier le déluge et le contexte du déluge, un contexte de jugement, et nier la réalité d'un jugement final. La parole est attaquée. Et malheureusement, les attaques les plus violentes sont souvent par des gens religieux. La parole, un des meilleurs endroits pour perdre confiance dans la parole, c'est d'aller dans une église qui te la dissèque et divise et réinterprète d'une manière où tu dis « mais en fait, je ne peux plus avoir confiance dans ce livre ». Une fois qu'on commence à faire ça, on n'a plus confiance dans la parole. Pourquoi est-ce que les gens enlèvent la création? Pourquoi est-ce que les gens enlèvent le déluge? Pourquoi est-ce que les gens enlèvent le jugement? Parce qu'ils ont honte de la parole. Ils ont honte que ça soit dans la parole. Ils préféraient que ça ne soit pas dans la parole, que Dieu ait formulé les choses différemment, parce qu'eux les auraient formulées différemment. Et la question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons honte de ces choses? Est-ce que nous avons honte de la puissance de Dieu révélée à la création? La justice de Dieu révélée au déluge et le salut final de Dieu qui va être révélé lors du dernier jugement, parce qu'il n'y a pas de salut sans jugement. C'est le message de la Bible. On voit trois oublis. Le premier oubli volontaire est celui de la création. Il y a peu de livres qui ont été autant attaqués que la Genèse. On essaie de réinterpréter le texte, réinterpréter les codes, en disant les styles, en disant mais c'est pas vraiment ce que l'auteur voulait dire, on peut le changer. Pierre nous dit c'est le commencement de la fin. La Genèse, c'est le fondement de notre foi. quand tu commences à le disséquer, à l'écarteler et à en enlever le fond, bah, tu te retrouves sans fondement. Et toute ta foi va finir par s'écraser. La création du monde, ce n'est pas un fruit du hasard, ce n'est pas un coup de poker, c'est la parole de Dieu. Et ça, Pierre nous le dit, tu ne trouveras jamais une meilleure explication pour la création du monde que la parole de Dieu. Et je serai le premier à dire que la Bible et la science ne se contredisent pas. Mais ce qui contredit, c'est la manière avec laquelle on a des prérequis quand on approche la science. Comment on appelle ça déjà ? Les présuppositions quand on approche la science. Mais le monde de Dieu, c'est le monde de la vérité. Et puis après, il nous parle du déluge. Verset 6, que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Encore une fois, dans de nombreuses académies bibliques, théologiques, on va prendre le déluge, on va dire non, mais c'est pas vraiment ça. Alors, scientifiquement, on sait que la Terre a été submergée d'eau, parce qu'on trouve même des coquillages au sommet du mont Everest. Donc on sait que la Terre, il y a un déluge, elle a été submergée, c'est évident. Ça, c'est évident que ça s'est fait. Mais ensuite, les gens vont dire, non, mais c'était il y a des millions d'années. Non, mais c'était un déluge local, c'était pas le jugement de Dieu. Et puis, mais non, mais c'est du folklore, tous ces animaux dans l'arche. Alors, ce qui est intéressant, il y a un académicien. Ah, ben j'ai perdu mon truc. J'avais un tableau. Bon, c'est pas grave. Non, mais il est plus là, hein, c'est pas grave. Mais voilà, il y a un académicien qui a fait une étude sur 200 mythes de la création. 200 mythes de la création et du déluge. Et je vous lis les statistiques. J'espère que vous allez me croire parce que c'est pas affiché. Mais qu'il y a une catastrophe universelle qui se passe et c'est un déluge et pas autre chose. Sur ces 200 mythes qu'on retrouve chez les Incas jusqu'en Océanie, en Inde, en Amérique du Nord, on les retrouve partout dans le monde. 95% font mention d'un déluge. Que le déluge est global. 95% de ces 200 mythes. Qu'une famille est trouvée, a trouvé faveur et est sauvée. 88%. Le déluge se passe dans le contexte géographique du peuple en question. Donc, tous les peuples ont été concernés. 82%. Un arc-en-ciel est mentionné. 75%. Les animaux ont un rôle important. 73%. La survie est possible à cause d'un bateau. 70%. Les animaux sont sauvés. 67%. Le déluge est causé par la méchanceté de l'humanité. 66%. L'humanité est avertie avant le déluge. 66%. Les survivants s'échouent sur une montagne. 57%. Des oiseaux sont envoyés. On retrouve ça. 35%. Les survivants offrent un sacrifice. On retrouve ça sur les 200 mythes dans 13%. Et le chiffre de 8 personnes qui sont sauvées, 9%. Donc on voit que le déluge fait partie de l'histoire de l'humanité. Et Pierre nous dit que c'est une attitude volontaire de supprimer cette vérité, que le monde a été jugé. Et on sait la raison pour laquelle on a envie d'enlever le déluge, c'est parce qu'on ne veut pas que Dieu juge. On ne veut pas ce Dieu-là. On veut un Dieu bisounours qui nous donne tout ce qu'on veut, qui nous permet de satisfaire notre gratification immédiate sans qu'il y ait de conséquences. Et puis la troisième chose qui est liée à tout ça, c'est la réalité d'un jugement final. Verset 7, « Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. » Mais qu'est-ce qui se passe quand on rejette la notion de jugement ? On rejette la croix. Parce que le message de la croix, c'est que le jugement de Dieu est tombé. Et alors que nous le méritions, il est tombé sur un sauveur, Jésus-Christ, qui a porté ce jugement pour nous. Mais quand on lit l'Apocalypse, on a ce chant, on aime bien citer pendant la louange en Apocalypse 5, seul l'agneau est digne, seul l'agneau est digne, amen. Mais il est digne de quoi ? Il est digne d'ouvrir le rouleau de la destruction du monde. L'agneau de Dieu qui est sacrifié, il sauve le monde par son sacrifice, mais il sauve le monde aussi par finalement la destruction finale de ce monde qui a besoin d'être détruit. Non seulement pour que pour que la présence du péché disparaisse à jamais. Je sais que parler du jugement de Dieu n'est pas une chose facile. Je pense souvent à Daniel, lorsqu'il a sa vision du futur, des guerres à venir, de toutes ces choses, la Bible nous dit qu'il va vomir. Et moi, ça me fait la même chose. Penser au jugement, penser à la mort, penser à l'enfer, ça me prend dans les tripes, ça me rend mal à l'aise. Mais si c'est la vérité, j'en suis convaincu, Dieu veut quelque part qu'on ait ce mal à l'aise pour qu'on agisse en conséquence et on agisse pour les choses éternelles plutôt que pour les choses présentes. On a nos amis, on a notre famille, on a nos collègues qui sont en route vers l'enfer, les amis. Il y a une personne qui meurt sur Terre toutes les 1,8 secondes, je pense. La mort est partout autour de nous. C'est les choses éternelles qui comptent. Un troisième signe de la fin des temps est le jour du Seigneur. L'évangile annoncé aux nations. L'évangile annoncé aux nations. L'ère du jugement et l'ère du salut sont ensemble, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de salut dans la Bible sans jugement. Et en même temps, notre Dieu qui est bon, parce qu'il sait qu'il y a le jugement, offre aussi le salut. Et c'est l'ère dans laquelle nous sommes, c'est l'ère du salut annoncé aux nations. C'est l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous avons l'appel, nous avons la responsabilité, nous avons le privilège d'annoncer la bonne nouvelle du salut éternel de Jésus-Christ. Verset 8. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. La raison pour laquelle Dieu fait que le temps perdure, c'est parce que Dieu a envie de sauver. Et Dieu a envie de sauver un maximum de personnes. On le voit en Marc 13, verset 10, il faut d'abord, avant la fin du monde, que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Je trouve ça fascinant que la courbe de croissance de la population au monde, c'est exponentielle. Alors les statistiques ont dû changer, mais il y a quelques temps, je regardais. Aujourd'hui, il y aurait 7% de la population de l'humanité qui a jamais existé, qui est en vie. Vous imaginez? À cause de la croissance si rapide, on augmente en milliards. Mais pour avoir 1 milliard, au travers de l'histoire de l'humanité, il fallait des siècles et des siècles de toute l'humanité pour avoir ce nombre d'êtres vivants. Dans l'Empire romain, avoir 1 milliard, enfin à l'époque antique, avoir 1 milliard de personnes, ça prenait peut-être 400 ou 500 ans. Bon, c'est difficile de faire de la démographie à cette époque-là, mais aujourd'hui, on a le privilège que la majorité de l'humanité va vivre dans nos temps. On a une opportunité absolument unique pour que le salut de Dieu soit entendu et répandu de lieu en lieu. J'aime beaucoup les valeurs de votre église, comme vous l'avez mis sur le site, EBTM, avec le M pour mission. Mon arrière-grand-père, dans le début des années 1900, il y avait un mouvement aux États-Unis qui s'appelait le mouvement volontaire des étudiants. Et ce mouvement s'était dit, on va faire tout ce qu'on peut pour que l'évangile soit annoncé sur la terre entière. Et c'est pour ça qu'on voit historiquement des mouvements missionnaires peupler le monde entier au début des années 1900, parce qu'il y avait cette vision en disant, on veut être la dernière génération. On veut se mouiller, on veut œuvrer parce que voilà, l'éternité, elle frappe à la porte, elle est là, et on veut pouvoir avoir un impact. Et il faisait partie de ces étudiants qui sont partis, il est parti au Guatemala, devenir missionnaire, parce qu'il avait à cœur de pouvoir faire partie de ceux qui allaient annoncer l'évangile jusqu'au bout du monde. C'est l'ère dans laquelle nous vivons. L'ère dans laquelle nous vivons, et ça c'est la bonne nouvelle. Oui, il y a une apostasie qui va devenir croissante, il y a des problèmes qui vont devenir croissants, les temps ne vont pas s'améliorer, mais le salut de Dieu, il est là. Et plus la population du monde augmente, plus il y a de gens qui sont sauvés. On a une opportunité absolument, absolument unique, magnifique, de prêcher l'évangile aujourd'hui. Et j'espère, les amis, que ça va être une de vos priorités cette année. De prier pour des opportunités d'annoncer l'évangile. De prier pour les âmes perdues qui sont autour de vous. De saisir les opportunités avec courage pour que l'évangile avance. Quatrièmement, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Pierre nous dit que la fin des temps, un des signes, ça va être l'avènement du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Jésus va revenir. Jésus va revenir, quelle bonne nouvelle. Jésus, Dieu parfait, l'humain parfait, va revenir pour instaurer une nouvelle ère. Ça va venir. On est à la dernière étape avant que ça arrive. Ça va être génial. Jésus s'apprête à venir. Et Pierre va le souligner, parce qu'on vit dans cette ère d'attente avant la venue de Jésus, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il y a une urgence à prendre en compte. Une urgence de vie de piété, de vie de sainteté. Et ça va être ses applications qu'il va donner par la suite. Il y a une urgence dans laquelle nous devons vivre. Parce que l'éternité est toute proche. Toute proche. Alors ça peut être dans 1000 ans, ça aurait pu être il y a 1000 ans. Pour Dieu, ces chiffres, c'est des petits chiffres, il est éternel. Pour nous, ça paraît long. Mais le jour du Seigneur va arriver. Alors, ma compréhension du jour du Seigneur, je pense que c'est la même qui est enseignée dans cette église, c'est la même que j'ai retrouvée dans la confession de foi, et que le jour du Seigneur se passe avec des phases. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que la venue de Jésus se passe avec des phases, mais en lisant l'Ancien Testament, des fois, on ne savait pas comment faire le tri. Et les disciples étaient confus en disant « Mais le Messie est là, mais il faut qu'il règne ». Parce que dans l'Ancien Testament, oui, le Messie devait venir pour mourir, comme on lit en Ésaïe 53, Psaume 22, mais il était venu aussi pour régner. Le Messie devait venir pour régner et les disciples étaient confus. Au moment de l'ascension, les disciples disent « Mais Jésus, quand c'est que tu règnes en Israël ?» Et cette idée de phase est un peu voilée dans les Écritures. Et c'est un peu comme ça que je comprends le jour du Seigneur. Il y a plusieurs choses qui vont s'enchaîner. Ça fait partie du même mouvement. Et des fois, il y a des textes bibliques qui vont parler du retour de Jésus. Et des fois, en parlant de phases différentes, mais au même moment. Pour la fin des temps, j'aime bien dire que je préfère être biblique que logique. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre la parole pour ce qu'elle dit. Et si les pièces du puzzle, j'arrive pas à toutes les mettre dans une boîte, ça me dérange pas. Parce que Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le travail d'essayer de comprendre comment tout ça s'emboîte. Mais je pense qu'il faut le faire avec humilité. Sachant que, il y a une partie voilée quand Dieu fait des prophéties. Mais le jour du Seigneur, voici ce que nous dit la parole, les textes des Écritures, qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, ensuite il y aura une période de tribulation, ensuite il y aura un règne de 1000 ans de Jésus-Christ, et ensuite une dernière guerre, une dernière victoire et son règne éternel. La pensée amillénariste essaie de combiner toutes ces phases. Mais même si j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de copains amille, il reste le problème de comment tu interprètes des textes des Écritures qui parlent de 1000 ans, qui parlent du père de tribulation, qui parlent d'un certain rôle de l'Antichrist, qui parlent d'Israël. Et la Bible nous dit, il y aura ces phases qui vont venir du jour du Seigneur. Alors, quelques encouragements. Très rapidement, Pierre nous donne 3 encouragements face à cette réalité de fin du monde. Et face à cette réalité, il nous dit, il y a une urgence d'action. Il y a une urgence d'action. Et premièrement, c'est une piété à toute épreuve. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le premier lien qu'on ferait directement. La fin du monde arrive, alors sois pieux. Mais pour Pierre, c'est le lien qu'il nous donne. Parce que la fin du monde arrive, parce que la porte de l'éternité est aussi proche, concentrez-vous sur ce qui est éternel.
sur la connaissance de Christ.
Je lis les versets 11 à 13. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Je ne sais pas si vous pouvez entendre la voix de Pierre qui nous supplie. Et depuis le début de sa lettre, il dit « Dieu nous a tout donné pour la piété ». C'est son appel. Dieu nous donne les épreuves aussi pour qu'on grandisse dans cette piété. Et ce défi des faux enseignants, des défis de notre génération, devrait nous concentrer à être des hommes et des femmes de piété. Hâtez-vous, attendez, hâtez l'avènement du jour du Seigneur où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Est-ce que vous réalisez, les amis, que votre piété est une urgence? Souvent, la vie de piété est la première chose qu'on remet à demain. Demain, je lirai plus ma Bible. Demain, je m'engagerai davantage. Demain, je deviendrai plus un homme ou une femme de Dieu. Pierre nous rappelle la piété est une urgence parce que la réalité de l'éternité est à la porte et notre témoignage, et c'est maintenant ou jamais, les amis. Deuxième encouragement est une patience à toute épreuve. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Pierre nous encourage à avoir une piété, mais pas juste une piété individualiste. Il parle d'être dans la paix. Donc c'est une piété qui considère l'église locale, qui s'engage dans l'église locale en reflétant Jésus-Christ, dans la connaissance de Jésus-Christ, dans un attachement à Jésus-Christ, dans une imitation à persévérer. Et la vie de piété, c'est un combat. C'est la première chose que Satan veut t'enlever. Il veut t'enlever ta vie de prière. Il veut t'enlever ta connexion à la parole de Dieu. Parce que si tu n'as plus ça, bah tu seras un chrétien sans puissance, et ça ne lui fait pas peur. Le combat spirituel, c'est ta piété aujourd'hui. Et ça a un impact éternel. Et l'exemple que Pierre nous dit, c'est « Vis comme Jésus, imite Jésus et imite-le dans l'église locale en vivant sans reproche, au-dessus de toute tâche. » Être sans reproche, ce n'est pas juste l'appel des anciens. C'est le standard de l'église que les anciens doivent modéliser. Mais on est tous appelés à résoudre nos péchés. Et puis finalement, troisième encouragement, un discernement à toute épreuve. Pierre nous encourage, voici donc bien-aimés, vous êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la connaissance, dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Le mensonge est partout. La raison pour laquelle nous ne sommes pas plus attachés à Christ aujourd'hui, c'est parce qu'on a été attachés à des mensonges. Souvent, qui promettent une gratification immédiate. Des manières de penser, des habitudes, des choses qui sont pas la vérité de Christ, mais qui se sont intégrées dans nos vies, dans notre vision du monde. Et Pierre nous rappelle, attache-toi à Jésus-Christ, dans sa vérité. Et combat le mensonge. En tant que chrétien, je vais finir avec ça, on a beaucoup d'excuses. On commence dès l'enfance. On dit à nos enfants, c'est l'âge du jeu. C'est pas grave si aujourd'hui tu pries pas trop, tu lis pas ta Bible, tu sers pas. C'est pas grave, t'es enfant, c'est l'âge de jouer. Mais quand tu seras plus grand, on va mettre ces choses en place. Et l'enfant, il accepte volontairement. Arrive l'adolescence, les ados nous disent « Oui, moi j'aimerais bien lire plus, être dans la Bible, tout, mais là c'est l'âge de la découverte. J'ai qu'une jeunesse, il faut que je la vive à fond. Mais t'inquiète pas, bientôt je serai un adulte. Et quand je serai un adulte, bah, je lirai la Bible, je prierai, je serai engagé dans l'église. » Et puis arrive l'âge des études. Ouais, écoute, j'aimerais bien venir à l'église plus souvent, mais là, tu comprends, je suis en train de construire mon futur. C'est super important. J'ai pas vraiment le temps, là, de lire la Bible, j'ai pas vraiment le temps de m'attacher aux choses de Dieu, mais t'inquiète pas, j'ai bientôt fini mes études. Et dès que j'ai fini, je vais servir le Seigneur de tout mon cœur, je vais grandir en piété, tu vas voir, ça va être génial. Puis arrive le mariage, les enfants. Ouais, écoute, c'est un peu compliqué, la piété, en ce moment, mais... Je dois changer des couches, on est à la course un peu partout. Mais bon, c'est une période, les enfants sont petits, vont grandir. Vous savez ce qu'ils me disent les gens qui ont des enfants grands dans l'église? Ils ont 50 ans, 45 ans, 40 ans, 55 ans. Ils disent, Philippe, je ne sais pas comment faire des disciples. J'ai jamais eu une vie de piété. Mais la retraite arrive, donc t'inquiète pas, bientôt j'aurai tout le temps du monde et je vais pouvoir finalement m'y attacher. Et là, je me donnerai à fond pour l'église, et là tous les dimanches je servirai. Sauf que j'achète une maison aussi en campagne, je vais visiter les petits-enfants. On passe notre vie avec des excuses. Si aujourd'hui vous voulez avoir un impact pour l'éternité, ça commence aujourd'hui. Quelles décisions sommes-nous prêts à prendre pour grandir dans la connaissance de Christ et s'y attacher? Prions ensemble. Père Céleste, merci pour la vérité de ta perspective, ce qui compte et ce qui est éternel. De nous, Père Céleste, de nous y attacher et de nous y attacher aujourd'hui en nous revêtant d'une attitude de piété, de sainteté, d'attente, de courage, de discernement dans la vérité, pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh oui, Père Céleste, que chacun de nous puisse finir l'année 2026 en ressemblant davantage à Jésus-Christ. En son nom nous prions. Amen.